7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 septembre, bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la rentrée scolaire et le protocole sanitaire qui s'invite pour la seconde année consécutive. Retour en classe de plus de 12 millions d'élèves, nous serons avec le proviseur d'un lycée de banlieue parisienne dans quelques instants après les autres titres.
À Emmanuel Macron ne lâchera rien contre le trafic de drogue. Promesse hier aux policiers des quartiers nord de Marseille, 150 millions d'euros annoncés pour l'hôtel de police avant le détail du plan global pour la ville cet après-midi. Trafic ferroviaire très perturbé en Allemagne, troisième round de la grève des cheminots sur fond de campagne électorale. Et puis la performance de Marina Abramovic à l'Opéra de Paris, hommage à Maria Callas.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, il a percuté la scène musicale française ces dernières années, devenant un de ses talents les plus prometteurs. Il a été encensé par les critiques et puis il s'est tu il y a un an et demi, plus un mot, plus une chanson. Il a même coupé ses réseaux sociaux. Il fait ce matin son retour médiatique sur Inter. L'homme pâle est notre invité à 7h50.
Et on se retrouve à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale sur la situation en Afghanistan. Deux invités, l'historien Jean-Pierre Filiu, l'écrivain et réalisateur Atik Rahimi, et vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le variant Delta plane sur la rentrée scolaire, mais ça y est, les établissements accueillent dès aujourd'hui les près de 12,5 millions d'élèves avec un protocole sanitaire de niveau 2. Tout le monde en présentiel porte du masque obligatoire en intérieur et parfois localement même dehors. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Vous êtes à Courbevoie, près de Paris, lycée Paul Lapie, 1300 élèves sans professeur. Alors comment se prépare-t-on ce matin ?
Eh bien, avec ses 1300 élèves et des classes à 35, le proviseur Bernard Lecor s'attend à ce qu'il y ait très vite des contaminations malgré le protocole sanitaire. L'an dernier, les élèves ont eu cours à distance un jour sur deux à partir de novembre. Cette année encore, les enseignants s'adapteront.
Les professeurs là ont bien compris qu'il y aurait certainement à recommencer vers du distanciel un jour ou l'autre. En tous les cas, pour les élèves qui seraient cas contact et qui devraient rester à la maison, les élèves non vaccinés entre autres. La question, c'est le jour où il y a cas contact dans une classe, expliquer à un élève vous êtes vacciné, vous restez en classe, vous n'êtes pas vacciné, vous rentrez à la maison. Faire un distinguo, créer deux catégories d'élèves, c'est pas très simple. On appréhende ce moment-là.
Les enseignants sont aussi un peu réticents à l'idée qu'on leur demande d'inciter les élèves à se faire vacciner. Ce n'est pas leur rôle, selon eux. 30% des lycéens sont déjà complètement vaccinés. Les autres, ceux qui seront volontaires, pourront se rendre dans un centre de vaccination situé dans un gymnase, à 10 minutes à pied d'ici. Les choses s'organisent et ce matin, le proviseur a plutôt le sourire. Il a son équipe au complet, ce qui n'est pas toujours le cas.
Merci. Les professeurs sont tous à leur poste. Donc c'est un proviseur et une équipe de direction plutôt sereine et toujours contente d'être là, mais sereine en plus.
Le lycée Jean Lapie a même obtenu des heures supplémentaires pour du soutien aux élèves après deux années scolaires difficiles. Des élèves qui vont arriver dans moins d'une heure maintenant.
Merci Sonia Princé avec Christophe Papon. Alors les élèves, on sera avec eux dans le journal de 8h. Cette année peut-être encore plus que les autres. Ils sont heureux de retrouver des repères, lever le matin, cours, devoirs et les copains pour lesquels on se fait beau. Derniers achats dans le centre-ville d'Amiens, suivi par Valentin Winato.
La star cette année,
c'est quoi la mode en CM1 ?
Des crop tops pour les filles. Normalement c'est hyper court, on voit le ventre, donc on n'a pas trop le droit.
Du coup, on essaye de convaincre maman.
Alors on va déjà attendre qu'il y ait du soleil. Et les crop tops, non, elle a que 9 ans, donc...
Papa, il a dit oui, mais maman...
Mais papa suit ce que maman dit, donc voilà.
Et oui, le shopping de rentrée vire un petit peu au choc des générations.
Moi, je trouve qu'elles sont un peu trop sexy pour leur âge.
Ma fille, vous voyez, là, elle s'est maquillée, ça se voit. Hein.
De l'anti-cerne. Bien sûr, non mais...
C'est pas de ma faute si tout le monde, avant notre génération, elle est à l'âge de pierre.
Voilà, ça c'est dit. Tiens, dans ce magasin, il y a la queue.
Bonjour madame. Là, en ce moment, on vend tout ce qui est vêtements automne. Des pulls, des jeans, beaucoup de bottes.
Et ce qui plaît le plus...
Une cliente sur deux achète un crop top.
Confirmation de Corinne, la patronne de la boutique.
Ouais, crop top d'hiver, donc manches longues, court avec un jean taille haute. Donc c'est vraiment nos ventes d'aujourd'hui, c'est ce qui fait notre chiffre d'affaires sur cette rentrée scolaire.
Pour aller avec le crop top, bien sûr, il faut...
Pantalon pas de def.
Ouais, surtout les meufs.
Et des chaussures pour Baila en terminale.
Des Nike Air Zoom, donc c'est celles qui viennent de sortir. J'ai flashé dessus en fait.
Il y a aussi les coupes de cheveux et là, c'est Florian qui a la plus belle.
Une permanente.
Mais pour moi, les permanentes, c'est ce que faisait ma grand-mère.
Ouais. Là, ça consiste aux mêmes choses, avec un bigoudi.
Je suis fan.
Voilà, le retour de la permanente, c'est ça aussi la rentrée. Valentin Winato, France Bleu Picardie, le 13-14 de France Inter et dans Lyon aujourd'hui. Émission spéciale en direct de l'école Pézenec à Saint-Florentin, à Cuba, avant de rouvrir les écoles. Vaccination pour tous à partir de demain pour les enfants de 2 à 18 ans avec les vaccins maison. Le variant Delta fait tanguer le système de santé cubain. Et puis quand les uns en manquent, les autres en gâchent. 15 millions de doses de vaccins ont été jetées aux États-Unis depuis le 1er mars. Date de péremption dépassée, erreur de dilution. 371 millions de doses ont, elles, été bien injectées.
Il est 7h06, Emmanuel Macron, lui aussi, en mode rentrée des classes.
Toujours à Marseille, où il est attendu à 9h30 tout à l'heure, dans une classe de CM2, avant l'annonce très attendue de son plan pour la ville cet après-midi. Hier soir, Emmanuel Macron en bain de foule dans les quartiers nord de Marseille. Les consommateurs de drogue sont des complices, dit le chef de l'État, qui annonce, Simon Le Baron, des moyens supplémentaires pour lutter contre les trafics.
Une soixantaine de policiers en uniforme et en cercle autour du chef de l'État. La mise en scène ne doit rien au hasard. Un pupitre avait pourtant été installé. Mais non, Emmanuel Macron a choisi d'être au milieu de ses agents pour mieux appuyer le ton offensif du propos.
L'idée que dans certains quartiers, ce serait branché de prendre de la drogue pour que dans d'autres, on ait des jeunes qui se fassent tuer parce qu'ils la vendent ou surveillent, c'est terminé. Et cette action déterminée, on l'amènera, on ne lâchera rien.
On tiendra et on gagnera, lance pour conclure Emmanuel Macron à ses forces de l'ordre, avec qui les relations ont souvent été tumultueuses depuis le début du quinquennat. Il annonce l'arrivée de 200 policiers supplémentaires dès l'année prochaine. Renfort déjà programmé, mais avancé d'un an. Il promet 150 millions d'euros pour le nouveau commissariat central. La mairie salue l'effort, mais maintient qu'il manque encore 800 policiers dans la ville. Le président, lui, a fait passer son message. Fermeté, fermeté, fermeté. Si ce déplacement à Marseille est le lancement officieux de sa route vers 2022, voici la preuve que la sécurité et l'autorité arrivent très haut parmi ces thèmes de campagne.
Et parmi les réactions à cette première journée de visite, le député local de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dénonce, je cite, le pèlerinage des promesses. Philippe Martinez de la CGT, tout à l'heure à 8h chez Jean Castex, suite des entretiens avec les partenaires sociaux. À Matignon, les patrons seront reçus dans la foulée. En Allemagne, voici un mouvement social qui ne doit rien au hasard à une poignée de semaines des élections. La troisième grève des conducteurs de train depuis le 10 août. Et cette fois, c'est parti pour presque une semaine du jamais vu dans l'histoire récente. Trafic ferroviaire quasi à l'arrêt outre-Rhin. À Berlin, Ludovic Pétenu.
Le débat sur la débâcle en Afghanistan cède sa place à un sujet, disons, plus proche de l'électeur allemand. Et comme il s'agit de la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF, le propriétaire est montré du doigt. Le gouvernement fédéral et son ministre des Transports, un conservateur du camp d'Angela Merkel et du candidat à sa succession, Armin Laschet, déjà bien à la peine dans cette campagne. Ses adversaires ne lui font aucun cadeau, ce sont les Verts qui attaquent, parce que les transports collectifs sont l'un des points clés de leur programme, qui promet d'en faire plus pour la mobilité et la protection du climat. Les Verts rejoints dans leur critique par le parti de gauche, Die Linke, les deux forces politiques évoquent aussi la question sociale. Ils demandent que soient satisfaites les revendications, 600 euros de primes liées au coronavirus, ainsi que pour chaque cheminot, un peu plus de 3% de hausse de salaire. Nul ne sait si le gouvernement a fait pression sur la direction, de peur que cette grève n'affaiblisse encore un peu plus le candidat conservateur. Mais hier soir, les responsables de l'entreprise ont fait un grand pas vers les grévistes en satisfaisant toutes leurs demandes. Les campagnes électorales font parfois des miracles. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
New York et Philadelphie prises au piège des restes de l'ouragan Ida qui a frappé la Louisiane. Tornades et inondations balayent actuellement le nord-est des États-Unis. Trombe d'eau sur New York, rue inondée en quelques minutes, route coupée. Plus de vols depuis l'aéroport de New York. L'état d'urgence est décrété. Nous serons à New York dans le journal de 7h30.
Il est 7h09. Voilà le hard discount qui venait du froid sibérien.
De Krasnoïarsk à Thionville, le groupe russe Svetofor ouvre en octobre 3 magasins en France, tous dans le Grand Est. Pont-Sainte-Marie dans l'Aube, Sainte-Marguerite dans les Vosges et Thionville donc en Moselle. Avec ses 1500 magasins en Russie et déjà des enseignes en Allemagne ou en Espagne, ce hard discounter veut proposer des prix 10 à 20% moins chers que ses concurrents. Alors, comment est-ce possible ? Explication Agnès Soubiran.
Des palettes à même le sol, des cartons éventrés, une lumière crue, un logo aux couleurs flashy, jaune et rouge, pas de vendeur pour vous renseigner, des salariés multitâches. Le hard discount russe ressemble au Aldi et Lidl des années 80. Des enseignes qui depuis sont montées en gamme et qui proposent entre 1200 et 1500 références quand le russe se contentera de 800 produits. Des marchandises qui ne seront payées aux fournisseurs que si elles ont été vendues. Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialisé dans la grande distribution.
Le distributeur ne veut pas prendre le risque, donc finalement c'est à l'industriel dans ce cas-là de prendre le risque de vendre son produit à l'enseigne mère et de gérer la gestion des retours.
Autre technique pour faire baisser les prix, s'implanter dans des hangars déjà existants.
Construire un magasin ex nihilo, ça coûte plus cher que reprendre un magasin qui est déficitaire, qui a fermé. Donc là, vous récupérez un bail forcément un petit peu à la baisse et les coûts de transformation sont moindres.
Dans un secteur qui, c'est vrai, ne cesse de gagner des parts de marché, ces nouveaux magasins vont entrer en concurrence avec les historiques Aldi et Lidl, mais aussi le néerlandais Action et le danois Normal. Pour marquer les esprits, le groupe russe a choisi d'appeler ses magasins à l'étranger « mère » comme « maman », histoire sans doute de donner confiance.
Peu inspiré en attaque, inquiétant en défense, le retour raté des Bleus. Match nul hier soir, un partout des hommes de Didier Deschamps face à la Bosnie-Herzégovine en qualification au Mondial 2022. Le coup de chapeau d'hier soir était recherché ailleurs. Doublé historique de Cristiano Ronaldo face à l'Irlande. 110e, 111e but en sélection nationale. CR7, recordman mondial de buts en sélection en 180 matchs avec le Portugal. On termine avec une icône à l'Opéra National de Paris. La performeuse Marina Abramović. À 74 ans, celle qui s'est lacérée au nom de l'art, qui est restée silencieuse 700 heures face aux visiteurs du MoMA de New York, s'aventure sur le terrain lyrique. Dans les 7 morts de Maria Callas, Marina Abramović évoque son amour de la diva à qui elle s'est toujours identifiée, Amélie Perrier.
Son coup de foudre pour la Callas remonte à son adolescence en ex-Yougoslavie.
Quand j'avais 14 ans, j'étais assise dans la cuisine de ma grand-mère à Belgrade. Vous savez, l'ex-Yougoslavie, elle en avait cette vieille radio en bakélite. Elle était toujours en train d'écouter de la musique. Et un jour est sortie de ce poste en bakélite la voix. Je me rappelle m'être levée, debout au milieu de la cuisine, et j'ai pleuré.
Marina Abramović, depuis, a trouvé dans la Callas un double, vivant elle aussi des amours tragiques. C'est pour ça qu'elle a choisi aujourd'hui de l'évoquer à travers sept opéras que la diva a incarné, sept tubes racontant des héroïnes au cœur brisé ou sacrifiées par amour, de Carmen à Norma en passant par la Traviata. Et les sept morts de la Callas, c'est de l'opéra chanté par sept sopranos, mais c'est aussi une performance avec Marina Abramović sur scène.
C'est du jeu d'acteur, c'est du chant, de la vidéo. Et la vidéo n'est pas qu'un fond d'écran, elle fait partie de l'œuvre.
Pour accompagner chaque air d'opéra, un court film projeté où Marina Abramović se met en scène avec le génial acteur américain Willem Dafoe. Une ouverture de saison éblouissante pour l'Opéra de Paris.
Et on ne se quitte pas comme ça avec Marina Abramović. L'entretien qu'elle nous a donné est à lire sur franceinter.fr et elle sera ce soir dans l'heure bleue de Laura Adler à 20h.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, c'est le 4e volet de notre série de Zoom spéciaux consacrés aux attentats du 13 novembre.